Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Cap sur les pays du Maghreb aujourd'hui avec un reportage au Maroc à Essaouira. Vous découvrirez un lieu étonnant de la Médina. Nous donnerons la parole aux éditions tunisiennes Elizad pour faire un état des lieux de la situation culturelle sur place. Et puis un grand auteur algérien sera à notre micro pour un livre de poche à lire en cette période estivale. Boualem Sansal a osé un roman décalé sur les travers du monde. Autre livre de poche pour l'été, celui de Philippe Solers qui a publié un récit contemporain sur ses origines et ses interrogations sur la vie. Un entretien qui va vous faire réagir. Et puis nous serons avec l'écrivaine belge Emmanuelle Paul. Son nouveau roman est au cœur de l'actualité, un roman d'anticipation qui résonne curieusement avec la période que nous vivons en ce moment, un livre qui a déstabilisé nos libraires.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires donc sont bien sûr avec nous. En Suisse, c'est Yasmina Giaquinto qui est là de la librairie du Baobab à Martigny. Bonjour Yasmina.
Bonjour Emmanuel.
Une anecdote de libraire à nous raconter, c'est notre nouvelle séquence depuis la fin du confinement, vous l'avez compris. Quelle anecdote Yasmina alors ?
Alors j'ai envie de vous raconter une conférence que j'ai organisée dans ma librairie il y a 3 ans. Avec Christelle Petit-Collin sur le thème du trop-pensé, du non-autre mental envahissant. Et en fait, on a rencontré un succès incroyable. On avait 65 personnes inscrites au début de la semaine. Et gentiment, les gens nous appelaient en nous disant qu'ils aimeraient bien venir, mais moi, j'avais plus de chaise. Du coup, en plaisantant au téléphone, je disais aux gens, écoutez, si vous avez un petit siège pliable, moi, je vous réserve une place. Et je regrette vraiment de ne pas avoir pris de photos parce qu'on a eu plus d'une dizaine de personnes qui ont débarqué avec leurs chaises pliantes. Et du coup, on était 80 dans la librairie pour la conférence.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, vous avez explosé les compteurs, c'est ça ?
Oui, c'était chouette.
Voilà, pensez à acheter des chaises pliantes, ça peut toujours servir. En plus, j'en cherche en ce moment, moi, figurez-vous, c'est drôle. Vous voyez comme quoi. Bon, allez, on va en Belgique avec Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Il y a plein de chaises pliantes chez vous, je me rappelle. On avait fait une rencontre là-bas.
Plein.
Tout va bien chez vous, Déborah ?
Tout va bien, Emmanuel.
Parfait. Une autre anecdote, c'est en France avec Sophie Todescato de la librairie Les Temps Modernes à Orléans. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Alors, qu'avez-vous choisi pour nous aujourd'hui ?
C'est une petite anecdote qui rend compte de ce qui a lieu en ce moment, c'est-à-dire les grandes retrouvailles avec les clients et des nouveaux clients qui arrivent. Par exemple, le jour de la réouverture, je vois arriver deux jeunes gens de cette génération à qui, en temps ordinaire, on déroule vraiment le tapis rouge parce qu'ils sont jeunes, ils n'osent pas venir dans nos librairies. Mais ce jour-là, le problème, c'est qu'ils arrivent à la porte et ils n'ont pas de masque, juste au moment où une cliente est en train de m'expliquer qu'elle est de santé fragile, donc très très vigilante. Donc vraiment, ils partent piteusement, ils n'osent pas rentrer, puis moi je suis encore plus dépitée qu'eux. Mais à la caisse, il y a un autre client qui est là, qui assiste à la scène, qui est en train de payer ses livres, et je le vois qui rajoute un livre de poche à sa pile, qui sort en trombe, qui rattrape les deux jeunes gars in extremis et qui leur offre le livre. J'ai entendu qu'il leur disait « Ah, mais vous savez, ici, au temps moderne, on décourage pas la jeunesse. Revenez, mais revenez avec un masque. » Voilà.
Incroyable. Et c'était quoi le livre de poche ? C'est un livre que les jeunes avaient choisi ?
C'était
le Hussard sur le toit de Giono, un livre d'actualité, dirons-nous.
Ah d'accord, mais ça c'est le client qui a payé, qui a choisi le livre pour eux en fait.
Ouais, c'est ça.
Incroyable. Bon voilà, la générosité c'est bien, c'est beau, faut continuer comme ça, bravo,
oui.
Merci beaucoup Sophie. Au Canada on retrouve Josiane Letourneau de la librairie du Square à Montréal, bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Avez-vous pris des photos avec vos clients pour l'opération Un livre chez mon libraire ?
Oh ben en fait pas encore, mais vous me rappelez que je devrais vraiment le faire.
Eh oui, j'ai vu ça, c'est pour ça que je vous le rappelle. Je vous rappelle donc notre opération Un livre chez mon libraire, hashtag Un livre chez mon libraire sur Twitter et Instagram. Le principe est simple, vous achetez un livre chez un libraire indépendant, vous prenez une photo et vous la partagez sur les réseaux sociaux, comme l'a fait Céline Au Bonheur de Lire à Bruxelles, dans la librairie Tropisme, avec une photo pour Instagram sur la Grand Place, avec une collection de livres de poche, dont Virginie Despentes. Ou encore Fabrice Dupuis à Meaux sur Twitter, qui a acheté lui plein de livres dans la librairie Le Monde d'Arthur. Arthur, dont le dernier roman de Marie Darieussecq. Bravo, continuez à acheter vos livres chez un libraire indépendant, prenez une photo et partagez-la sur Instagram et Twitter comme eux, hashtag un livre chez mon libraire. D'autant que c'est la fête de la librairie indépendante ce week-end. J'espère que nous aurons plein de photos à commenter la semaine prochaine, dont les photos de notre chère Josiane Letourneau au Canada. Dans un instant, on part à Essaouira pour un reportage dans la Médina. On écoute tout de suite le son de la francophonie avec une nouveauté musicale qui est numéro 1 en ce moment dans un pays de la francophonie. On part en France aujourd'hui avec le nouveau titre d'Indochine qui est numéro 1 partout. Le groupe Indochine, numéro 1 en ce moment en France, avec ce tout nouveau titre « Nos célébrations ». Et on part à Essaouira, au Maroc, avec Marie Binbin, artiste peintre et auteur du « Fou du Roi » et de « Rue du Pardon » chez Stock. Il nous fait découvrir une partie de la Médina sous le soleil marocain.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Marie Binbin.
Bonjour Emmanuel.
On est au cœur de la Médina avec plein d'enfants là qui sont autour de nous. Il y a un endroit emblématique pour Essaouira.
On est à la Scala. La Scala, c'est les fortifications de la ville. C'est l'endroit qui protégeait la ville. Ça a été fait par le sultan Mohamed Ben Abdallah. Il a fait appel à un architecte et plutôt un ingénieur français qui s'appelle Théodore Cornu, qui est un disciple de Vauban. Si vous allez à Saint-Malo, vous allez voir un peu la Scala.
Oui, ben c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que Cornu s'est inspiré des fortifications de Saint-Malo.
Exactement.
Et il y a un lien direct entre Saint-Malo et Essaouira.
Moi, je ne comprends pas pourquoi ces deux villes ne sont pas jumelées. Parce que quand j'étais
oui,
à Saint-Malo,
vrai, pourrait, oui.
À Étonnant Voyageur, je me suis senti à Essaouira, chez moi, ici.
Alors, on va passer là, Marie Binbin, sous un porche, une porte en fait, une porte d'entrée, ici à la Scala, à Essaouira. Essaouira qui se trouve à 2 heures de Marrakech.
2 heures de Marrakech.
Au bord de l'océan Atlantique. C'est une ville donc fortifiée. Et c'est une ville qui a une véritable histoire, avec notamment ses riades qui sont typiques de la ville.
Absolument. C'est des riades en étage. En général, les riades sont souvent sur un seul niveau ou au maximum 2 niveaux. Là, on peut tomber sur des riades à 3-4 niveaux. C'est assez typique d'Essaouira avec cette pierre qui est sublime, cette pierre ocre jaune qui est magnifique.
Ah, avec une couleur sable aussi parfois.
Oui, tout à fait.
Et des différents tons comme ça qui s'orientent vers le beige, vers le jaune. La Médina où nous sommes ici, on domine un petit peu finalement parce qu'on est un peu en hauteur. La Médina classée depuis 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Exact.
Voilà, on arrive à l'endroit où vous vouliez nous emmener. je commence à comprendre au fur et à mesure qu'on monte.
Mais oui, parce que là, on se retrouve dans Othello, non? Parce que tous les tournages, quand Orson Welles, il est venu en 47 au Maroc. Il a suivi une comtesse italienne. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il était marié avec Rita Hayworth. Mais il est tombé amoureux d'une comtesse italienne qui l'a amené à Marrakech. Et à Marrakech, il n'a pas aimé la ville. Et on lui a conseillé ce lieu, Essaouira, qui était à l'époque à quelques heures de Marrakech. Et il est arrivé, il est tombé amoureux de cet endroit.
Alors, c'est incroyable parce que de part et d'autre, à gauche comme à droite, on a la mer. On a la mer, on a des îlots, on a des rochers, on a des dunes de sable face à nous. Et c'est vrai qu'avec ces fortifications typiques, hein, puisqu'on est sur la géométrie classique, hein, des parois fortifiées, des murs fortifiés, avec, comme vous le savez, eh bien, ces murs échancrés comme ça.
Orson Welles, quand il est arrivé, il venait de divorcer avec les studios hollywoodiens qui l'ont lâché. Il devait faire le tournage d'Othello à Chypre. Et finalement, il a retrouvé Chypre un peu ici. Il a retrouvé et il a décidé de faire le tournage de son film dans ce lieu. Il s'est retrouvé ici avec une équipe de tournage de 50 personnes et il n'avait pas un rond. Et il s'est dit, voilà, le tournage qui devait durer quelques semaines a pris 3 ans.
3 ans.
Mais 3 ans et toute la ville a fait solidarité avec lui. C'est-à-dire, il n'avait pas les costumes. Alors pour fabriquer les costumes, il était voir les faire ailleurs. Il leur a montré des images des armures d'autrefois. Et avec les boîtes de sardines, ils ont fait les armures. Il a demandé au tailleur juif de lui faire les bures. Il a commencé son tournage, mais vraiment avec 3 fois rien.
Voilà, là on est dans un espace qui est circulaire. Et on a ces fameux canons qui sont aussi représentatifs et emblématiques des fortifications des villes françaises. Et c'est une ville très francophone, Essaouira.
Oui,
par l'architecture, même s'il y a les riades typiques qu'on trouve qu'ici, et aussi par la population qui est très axée sur la langue française. Tout le monde parle au moins un peu français ici.
Absolument, absolument. Et Essaouira, c'est la seule ville dans le monde arabe où à l'époque il y avait une majorité de juifs. Plus que les musulmans, il y avait, à l'époque, il y avait 22 000 personnes au temps d'Orson Welles. Il y avait 15 000 juifs et 6 000 musulmans. Et ça marchait très bien. Et c'est-à-dire, c'est un truc unique dans le monde arabe.
On s'approche d'artistes ici, dans ce domaine de la Scala à Essaouira. Beaucoup d'artistes qui jalonnent comme cela les rues et qui viennent jouer devant un public réduit, mais toujours présent. Vous êtes un passionné de culture, Marie Binbin. Il faut savoir qu'on vous connaît en tant qu'écrivain avec ce livre paru aux éditions Stock. Vous avez publié plusieurs romans d'ailleurs. Mais vous êtes aussi l'un des peintres les plus connus ici au Maroc. Même le roi a des toiles de vous. Et c'est finalement par la culture que vous êtes arrivé à changer finalement votre vie. Puisque dans Le Fou du Roi, vous racontez la difficulté qu'a eu votre père, courtisan du roi, qui a dû abandonner sa famille. Vous critiquez d'ailleurs le roi de l'époque, vous critiquez aussi tout ce qui s'est passé, toutes les souffrances que vous avez connues, mais vous en êtes sorti grâce à la culture, non ?
Absolument, absolument. La culture a été salutaire pour moi et pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que, avec le metteur en scène qui a adapté mon bouquin « Les étoiles de Sidi Moumen », nous avons ouvert des centres culturels dans les bidonvilles. Nous avons ouvert un premier centre culturel à Casablanca, qui accueille 1000 enfants quand même, et un autre centre à Tanger. Et là, on est en train d'en ouvrir 3 autres, à Fès, Safi et Agadir. C'est-à-dire, la seule façon de sauver ce pays, c'est éduquer les gens, éduquer les gamins. Donc, ce qui m'a sauvé, j'essaye de sauver les autres.
Bon, on va passer de l'autre côté, là, parce qu'il y a beaucoup de vent. Il faut savoir qu'à Essaouira, un peu comme à Saint-Malo d'ailleurs, il y a du vent que vous entendez derrière nous.
Maintenant, ils viennent de faire, comment il s'appelle, le truc américain encore, Game of Thrones.
Ah oui, Game of Thrones.
Ils ont fait encore ici un tournage. C'est un lieu qui se prête à ça, hein.
Ah mais complètement, on est vraiment dans des ruelles comme ça qui sont
absolument charmante, mais plus que ça, parce qu'il y a une vie ici, il y a une atmosphère. À Essaouira, il y a quelque chose de très particulier. On a l'impression d'être un peu hors du temps et hors du monde, dans un pays qu'on n'imaginait pas.
Absolument. Et les hommes et les femmes ont une certaine dignité qu'ont pas, par exemple, les gens de Marrakech. Ils sautent sur les touristes là, ils ne sautent pas sur toi.
Et puis, c'est la ville des chats. Il faut savoir qu'il y a des chats partout.
Absolument.
Qui sont dans des positions parfois assez étonnantes.
Assez curieuses, hein.
Même les Marocains les prennent en photo parce qu'on a l'impression que ce sont les pachas de la ville. Et qu'ils s'humanisent un petit peu.
C'est une ville où il y a des sardines.
Oui, c'est ça, il y a des sardines pas loin.
Il y a des sardines à côté, donc ils ont la belle ville, les chats d'Essaouira.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et chaque semaine, on consolide le lien avec la chaîne du livre en solidarité avec les auteurs, les libraires et les éditeurs. Bonjour Elisabeth Daldoul.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la fondatrice des éditions Elizade, qui existent depuis 2005, créée à Tunis au moment d'une situation politique compliquée d'ailleurs, avec même une commission de la censure. Vous avez monté cette maison d'édition en réaction, en opposition à l'époque ?
Alors oui, une forme de réaction et d'opposition qui n'était pas frontale, mais c'était une forme de survie au contexte. C'est-à-dire, il y avait une asphyxie et sincèrement, nombre d'intellectuels, on n'en pouvait plus. Oui, c'est une réaction pour soi et pour reprendre du souffle dans nos vies.
Alors comment ça s'est passé à ce moment-là ? On vous a laissé faire quand même ? Ça a été dur ou ça a été assez simple de monter Elizade ?
Ça n'a pas été dur du point de vue de la censure, mais il faut dire que la ligne éditoriale de la maison d'édition et de la fiction d'emblée, et je savais qu'en choisissant de publier de la fiction, je contournais d'une certaine façon la pression de la censure.
Bon, votre défi, Elisabeth, c'est d'occuper l'espace francophone avec des auteurs comme Ali Becher, que l'on aime beaucoup ici, Berouk, Leila Sebar ou encore Yamen Manaï, qui avait reçu le prix des 5 continents de la francophonie décerné par l'OIF. Créer des passerelles, c'est cela que vous souhaitez faire ?
Oui, 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 et c'est vraiment mon cheval de bataille plus que jamais. Surtout que là, nos frontières sont toutes fermées pour d'autres raisons, mais je crois que c'est tellement essentiel de faire circuler les idées, les pensées, et l'espace francophone nous permet ça, vu que c'est un espace qui se trouve sur les 5 continents, et je trouve que c'est merveilleux et autant en profiter.
Alors justement, comment vous la vivez, cette crise sanitaire chez Elizade à Tunis ? Comment ça se passe pour vous, Elisabeth Daldoul ?
Ben écoutez, ça se passe pas simple, mais je crois que c'est une situation pas simple pour beaucoup de monde. Et dans notre profession, qu'on soit libraire, éditeur, en tout cas dans la chaîne du livre, c'est très compliqué. Donc on redémarre. Il faut savoir que les librairies en Tunisie ont fermé un peu comme en France, c'est-à-dire du 23 mars et ont rouvert le 4 mai. Quand les librairies ont rouvert, c'était Ramadan, donc aussi une période très calme au niveau de la visibilité, au niveau de la venue des clients. Donc on reprend doucement, le chemin est dur. Je pense qu'il va falloir attendre vraiment l'automne pour revenir à un dynamisme réel. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut rester positif, de toute façon on n'a pas trop le choix. Et puis moi, je ne sais rien faire d'autre que de publier des livres et que de faire partager des textes qui me plaisent. Voilà, donc on continue, on s'accroche.
Parfait. Bon, on vous a demandé, comme aux autres éditeurs avant vous, de choisir un livre dans votre catalogue des éditions Elizade. Lequel conseillez-vous particulièrement aux auditeurs ?
Alors, on va dire comme un classique, et je vais... j'aurais envie d'en dire plein, mais bon, on m'a demandé un livre.
Oui, c'est ça.
je pense à Une odeur de henné de Cécile Omani, qui est un texte qui est sorti il y a une dizaine d'années, et c'est vrai qu'il continue à séduire les lecteurs. Très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune femme, Kenza, qui est médecin dans un village, mais qui aussi veut s'affranchir des codes qu'on lui impose, à savoir se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et donc, elle va se rebeller et partir, essayer de s'affranchir de ce poids de la société.
Très bien, Une odeur de henné aux éditions Elizade. Donc, merci beaucoup, Elisabeth Daldoul.
Merci beaucoup à vous et à l'émission d'être aussi ce passeur cette culture.
Je rappelle que vous dirigez les éditions tunisiennes Elizade, distribuées à travers toute la francophonie. On conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent de s'intéresser aux livres publiés par Elizade. Il y a des perles et les livres sont très beaux, très bien édités. Bon week-end à Tunis, Elisabeth.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
À suivre le nouveau roman de l'auteur belge Emmanuel Paul, qui prévoit un monde qui vacille et qui fait curieusement écho à la période actuelle. Avant cela, voici le nouveau titre du chanteur M dans la librairie francophone.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Crois en l'amour comme on croit au printemps. Crois en la vie comme on croit aux enfants. Crois en chacun comme on croit au présent. Crois en ton cœur comme on croit aux absents. J'étais perdu, errant, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des voyages et des chants. Tu m'as dit simplement qu'il y avait là devant toutes les solutions à nos questionnements. Crois en l'amour comme on croit au printemps. Crois en la vie comme on croit aux enfants. Crois en chacun. J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
C'était le chanteur M avec son tout nouveau titre « Croix au printemps ».
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on rejoint une auteure belge depuis nos studios de Bruxelles. Bonjour Emmanuel Paul.
Oui, bonjour.
Vous avez publié en ce printemps Le Prince de ce monde, un roman d'anticipation, comme on dit. Vos personnages évoluent dans un monde à la dérive. Le changement climatique génère des canicules extrêmes et des inondations. Les violences s'amplifient, les migrants arrivent en masse et le racisme devient presque la norme.
On y est presque, selon vous?
Oui, alors d'anticipation, c'est drôle, si on peut dire, parce que en fait, j'ai commencé à écrire ce roman il y a 4 ans maintenant. Donc, il y a toutes sortes de choses qui n'avaient pas encore eu lieu. Il n'y avait pas encore de gilets jaunes, il y avait moins de marches pour le climat, il y avait des problèmes qui n'étaient pas encore aussi aigus. Donc, j'ai été malheureusement, je dois dire, rattrapée par l'actualité petit à petit, au fur et à mesure de mon écriture. C'était d'ailleurs assez effrayant, je dois dire.
Alors jusqu'au bout, hein, Emmanuel Paul, parce que c'est une étrange histoire, a priori, qui interroge sur le bien et le mal, avec la figure du diable, qui peut s'incarner aisément chez chacun d'entre nous. C'est ce qui se passe avec votre narratrice, qui croit même le côtoyer de près. Donc il y a ce diable, mais à côté, toute l'actualité, finalement, elle résonne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de diable, Emmanuel Paul ?
Oui, c'est parti en fait d'une interrogation sur le thème du mal. Notamment à la suite des attentats, mais d'autres événements aussi, je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur la manière dont on était sidéré, puisque c'est le terme à la mode, par le surgissement du mal. Quand il débarque dans nos sociétés, quand des événements terribles se produisent. J'ai eu envie, voilà, d'écrire un roman sur ce sujet-là et d'essayer d'incarner une vision contemporaine de ce diable.
Ouais, vision contemporaine. Vous croyez au diable, vous, Emmanuel ?
Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance si moi, personnellement, j'y crois ou pas. Je crois qu'il y a encore énormément de personnes et de cultures qui croient aux forces du mal, sans que ce soit du tout méprisant. Je pense que, oui, il y a des choses qui existent. On n'est pas toujours uniquement dans la science et la rationalité. Et puis, ça s'incarne de différentes manières selon la culture ou les croyances de chacun.
Bon, ça répond pas sur vous, quoi.
Écoutez, si je l'avais rencontré, je vous le dirais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très séduisant dans le livre.
Oui.
Donc il prend la forme pour cette femme-là d'un amant qu'elle rencontre, une histoire qui pourrait être anodine, qui semble anodine et puis qui s'envenime et qui sombre dans la terreur.
Voilà, c'est ça. Bon, on est dans une période de transition après une catastrophe sanitaire et des centaines de milliers de morts, plus de 400 000 dans le monde, l'économie est au plus mal, les réflexes de consommation donnent priorité à l'alimentaire avant tout le reste et on tue encore des humains en raison de leur couleur de peau. Ça, Emmanuel Paul, c'est le monde actuel. Comment on en est arrivé là, d'après vous ?
C'est certain que la période est très sombre, je pense, et c'est pas pour rien que je me suis mis à écrire ce livre il y a déjà plusieurs années. Beaucoup de personnes, d'artistes, de scientifiques qui ont donc alerté. Donc, il y a peut-être une forme d'aveuglement et de surdité volontaire, je crois. Pour ne pas écouter ces signes, pas avoir vu ces signes, pas écouter ces avertissements qui venaient de toutes parts un peu.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ce monde. Et vous attirez par exemple notre attention sur ces musées occidentaux qui exposent l'art dit primitif des peuples que l'on laisse, je cite, « crever sur nos plages ». C'est un livre militant, Emmanuel Paul, en fait.
Oui, il a une forme de militance, oui, certainement, dans ce livre. Bon, on peut pas parler du mal de manière neutre et dégagée, en fait. Je pense que c'est un sujet qui appelle la lutte et le combat, forcément.
Alors, vous l'avez dit, elle rencontrera un homme séduisant, qui l'aimante, qui la fascine, au point de tromper son mari avec lui. Cet homme a une violence en lui, une façon de l'aimer très particulière. Et du coup, comme elle est sous influence, elle réalise que l'amour n'est que guimauve. Qu'on nous enfume avec ça. Pire, elle dit, l'amour peut être hypocrite, la haine est toujours vraie.
Oui, alors bien sûr, c'est les idées de son amant qui commencent à s'infiltrer et à prendre corps et chair en elle. Et c'est ça qui la rend très, très anxieuse ou folle. C'est ses pensées, c'est naturellement pas les miennes, mais c'est celles que lui instille petit à petit cet homme diabolique, en fait.
Mais en tout cas, cette phrase, Emmanuel Paul, l'amour peut être hypocrite, la haine est toujours vraie. C'est pas complètement faux.
C'est naturellement et malheureusement pas complètement faux. Il faut bien être lucide et voir que la haine, oui, elle rassemble des armées. Je pense que c'est vrai, malheureusement.
Bon allez, on va laisser la place à nos libraires qui ont lu votre roman, Emmanuel. Je sais que ça vous angoisse un petit peu. Le Canada, la Suisse et la Belgique, on commence par qui ?
Mais la Suisse.
La Suisse, allons-y avec Yasmina Giaquinto.
Oui, vous nous livrez un véritable récit apocalyptique. J'avoue que ce n'est pas exactement mon genre de lecture et que j'ai débuté votre roman sans grande conviction. Mais la force narrative et son style épuré m'ont fait oublier mes réticences. Cette aventure avec le diable incarné pose de vraies interrogations sur notre rapport au bien et au mal, mais aussi sur la puissance séductrice de la violence.
Alors c'est vrai qu'il est question de violence dans ce livre. On va voir du côté de la Belgique, tiens, si elle est d'accord avec sa collègue Déborah Damblon.
Mais oui, franchement, moi, elle m'a déstabilisée, cette femme qui s'enlise simplement, hein, si j'ose dire, dans une aventure néfaste. Alors probablement que c'est dû à l'écriture de l'auteur qui est fine et qui nous permet un regard d'entomologiste, vous savez, qui observe les humains comme si c'était des insectes, avec de l'intérêt, de la curiosité, après tout de la bienveillance, et puis beaucoup, beaucoup de recul sur leur vie, leurs choix, leurs peines, leurs regrets, et leur justification aussi.
Ça va pour l'instant ?
Ben oui, ça va, oui.
Allez, Josiane Letourneau est au Canada. Allons-y, Josiane, c'est à vous.
Oui, en fait, tout au long de ce roman, je me suis sentie comme sa narratrice, possédée, manipulée, impuissante. Votre habileté littéraire triomphe à tellement de niveaux dans ce livre. Le style direct et sans compromis agrippe le cœur d'emblée sans jamais permettre le repos dans une éventuelle douceur des mots. En fait, j'ai eu l'impression d'être complètement abandonnée à mes sensations seules, livrée à cette présence maléfique dont vous précisez l'incarnation à une merveille, ligne après ligne.
Voilà, vous avez fait l'unanimité, Emmanuel Paul.
Bon, tant mieux. Je dois dire que je suis un petit peu désolée d'offrir une lecture peut-être un petit peu difficile ou un peu sombre, bien que je pense qu'elle comporte des notes d'espoir. Mais je voudrais dire aussi que parler du mal de manière légère et sympathique, ça serait Walt Disney, ça serait une trahison. Donc, je ne pouvais que traiter ce sujet difficile d'une manière un peu sombre, oui.
Oui, c'est vrai que c'est sombre parce que votre personnage va devenir paranoïaque. À force de voir le mal partout, à force de se laisser entraîner et influencer par son amant, elle dit ne plus croire en rien ni personne. C'est ça qui l'a fait basculer, c'est là où elle vrille en fait.
C'est vrai, et ça je pense que c'est aussi un des grands dangers actuellement qu'on peut voir autour de nous, c'est le fait de ne plus croire à rien, c'est une espèce de relativisme qui fait qu'on est finalement complètement passif. L'indifférence, pour moi, c'est vraiment un grand danger, peut-être aussi grand que celui de la violence, je dois dire.
Oui, c'est vrai. On déploie les forces de l'ordre, on déploie des militaires aussi pour sécuriser les villes et les commerces, la population se précipite dans les magasins pour faire des courses, et encore une fois, vous avez écrit ce que nous venons de vivre en partie. Ça vous trouble ou ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça, Emmanuel Paul, en tout cas, vous surprendre plus que ça?
Si, ça me dérange et je vous cache pas que ça a été une écriture très difficile et comme je l'ai dit, le fait d'être petit à petit progressivement un peu rattrapé par ce que j'ai écrit, ça m'a pas vraiment amusé. Je trouve ça assez terrible. Après, voilà, c'est la magie de la littérature. Parfois, on a de la chance, on touche vraiment quelque chose.
Mais en tout cas, vous allez plus loin parce que dans votre histoire, la politique se radicalise. Il y a un parti qui souhaite faire du nettoyage ethnique, qui mise tout comme ça sur la sécurité et qui est clairement d'extrême droite. Et c'est lui qui va arriver au pouvoir.
Bon, ça, je pense que c'est un danger qui nous guette. Je suis assez lucide là-dessus, oui.
Oui, ça vous fait peur ?
Oui, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je parle de nos démocraties en Europe, mais bien sûr, oui, c'est un danger qui existe, je pense. Alors, j'y fais allusion de manière pas trop définie dans le livre, mais c'est un arrière-plan qui existe dans le livre, oui.
Mais c'est vrai que il y a quelques années, Emmanuel, quand on lisait ce genre de livre, on lisait ces histoires comme de la science-fiction. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit, on se dit que plus rien n'est impossible. Et c'est ce qu'on ressent vraiment à la fin de la lecture. C'est ça le problème, en fait. Le problème de votre livre, c'est ça. C'est que d'un roman d'anticipation, vous en êtes arrivé à écrire un roman sociologique.
C'était une fable, en fait, une fable contemporaine que j'ai essayé d'imaginer, qui pouvait se passer n'importe où en Occident, chez nous, il y a quelques années, et puis qui, en effet, touche certaines réalités. Je dois dire que quand vous dites tout est possible, c'est vrai que regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec ce virus, ce confinement, les mesures prises, tout est possible, je pense, dans le bien comme dans le mal.
Ouais, c'est vrai. Eh bien, bon, merci beaucoup Emmanuel Paul, merci infiniment. Le Prince de ce Monde est publié aux éditions Finitude. Merci Emmanuel.
Merci à vous.
Merci à vous d'avoir été dans nos studios de Bruxelles avec la participation technique bien sûr de la RTBF. À très bientôt. Avant d'entendre notre sélection de livres de poche pour ce début d'été avec Boualem Sansal et Philippe Solers, voici le nouveau titre de Junior dans la librairie francophone.
J'ai vu de mes yeux grands tout. Sans revers.
C'était le nouveau titre de Junior, La vérité nue. Junior, alias Anna Jean Leclésio, et nous serons avec son papa, le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Leclésio, pour un entretien exceptionnel autour de son nouveau livre. Nous irons à Nice le rejoindre la semaine prochaine. Et voici notre double séquence livre de poche pour l'été, avec tout d'abord Boualem Sansal et son dernier roman paru chez Folio, et tout à l'heure Philippe Solers.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Boualem Sansal est donc dans la librairie pour son roman Le Train d'Erlingen ou La Métamorphose de Dieu, paru chez Gallimard. Il faut s'accrocher pour lire votre roman, Boualem, et vous avertissez le lecteur. Dès les premières pages, vous concevez que ce roman puisse dérouter sur le fond comme sur la forme.
Ouais. C'est une preuve d'honnêteté. J'avertis mon lecteur, ce livre est difficile à lire. Probablement, vous n'arriverez pas au bout. Mais ce que vous, le peu de pages que vous pourriez lire, eh ben, j'espère qu'elles vous donneront à réfléchir.
Ouais.
Voilà, et je traite de plusieurs sujets.
Plein de sujets. Vous écrivez donc, la lecture, si elle s'accompagne d'une véritable méditation, est un acte initiatique.
Oui, je pense, oui. Bon, oui, voilà. On peut lire pour se délasser, pour s'amuser, pour apprendre. Mais on peut aussi lire, et c'est intéressant de. Pour méditer, pour construire sa voie. Donc, c'est un chemin initiatique. La lecture est une initiation, je dirais, quasi philosophique. Hein.
Et pourtant, ça part avec une histoire qu'on a l'impression qu'on va suivre, en fait. L'histoire d'Elisabeth Potier, victime collatérale de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris, qui sort du coma en endossant une autre personnalité. Ouais. Sauf que ça se complique. Tout est imbriqué, tout est mélangé, tout est en pagaille, à l'image du monde.
C'est bien ça.
C'est ça.
On peut faire une gros littérature risque, très lisse qui explique le monde.
Ouais.
Et je crois que ce type de littérature a un côté un peu totalitaire. C'est-à-dire qu'on force la réalité à entrer dans un schéma qui est le sien. Donc sa grille de lecture. La vie, il faut la regarder comme elle est. Elle est très complexe et elle est changeante. Et elle change de figure en fonction du lecteur. La même histoire lue par vous, ça a une résonance. Lue par lui, elle aura une toute autre résonance. Mmh. Et voilà, je voulais prendre la vie comme elle est, les histoires comme elles sont, et puis laisser chaque lecteur se débrouiller avec.
Bon, parfois il y a en tout cas des étincelles, des fulgurances, un passage qui met en perspective, qui contribue comme ça à la compréhension de la démonstration de votre récit, comme celui qu'a accepté de lire Bernard Lavillier, c'est ça la surprise, sur la musique, Bernard, du film Rue Barbare que vous avez composé. On va envoyer la musique et je vous fais signe.
L'humanité n'existe que par le mouvement des peuples, et seuls se meuvent les peuples forts, en qui est actif l'esprit d'aventure et de conquête. Si chacun était resté chez lui, à cueillir des baies et à regarder pousser l'herbe, l'humanité aurait disparu, emportée par la consanguinité, l'ennui, l'ignorance, l'obésité, la maladie. Le vrai drame pour un peuple, c'est l'ataraxie, lorsque nous aurons eu le goût de se battre, et c'est ce qui nous arrive, tout nous effraie, tout nous décourage. Un bruit, et hop, nous voilà à genoux, tremblants, battant notre coulpe, bafouillant les excuses. Nous ne savons même pas nous tenir sur la défensive, et s'il advient, mourir avec dignité, sinon panache.
Sur ce titre de Bernard Lavillier, Tangente, un extrait du nouveau roman de Boilhem Sansal. Une réaction, Boilhem ?
C'est formidable. Lu par Bernard, c'est un grand honneur.
Ce livre, c'est un appel à la résistance, Boilhem Sansal. La résistance à quoi ?
Oui, je crois que c'est le thème central, quand même. Toute cette pagaille qu'il y a dans ce roman, elle a un poteau central, c'est la résistance. Quoi.
Mais à quoi ?
À tout.
À tout.
La résistance à la mort, à la vie elle-même, qui nous emporte, à l'autre qui nous envahit, à ce qu'on aime, à ce qu'on déteste. Et on a besoin de résister, on est pour préserver son individualité.
Vous expliquez qu'aujourd'hui, pour exister, on nous incite à croire en quelque chose.
Oui, la société a besoin de croire en quelque chose. Pourquoi elle a besoin de croire en quelque chose ? Parce qu'elle doit produire des lois pour réglementer la vie. Si on laisse faire la nature, c'est le plus fort qui décidera de ce que sera la loi. Il faut un minimum d'ordre pour construire un système de loi qui agrée un peu à tout le monde.
Même ça, c'est antagoniste avec tout ce que vous dites, Boilhem Sansal.
Oui,
parce que si vous parlez...
La vie, c'est ça.
Ah ben, la vie, c'est ça. Mais là, encore, vous mélangez les choses. Parce que si on parle de loi et de règles, ça veut dire que tout ce que vous démontrez en disant que le monde est une grande pagaille, avec la mondialisation, vous attaquez la mondialisation, vous décrivez les nouveaux esclaves que nous sommes, contraints, je cite, de payer des loyers, de travailler pour de petits salaires et d'acheter de la nourriture, bref, de donner notre temps et notre argent à de nouveaux esclavagistes. Et si on vous suit là, si on parle des règles, des règlements et des lois, ce sont ces mêmes esclavagistes qui les posent.
Oui, absolument, parce que ça, voilà, on se dote d'une croyance. La croyance nous permet de produire des lois, mais on produit des lois imparfaites. Tout le temps, il faut tout le temps corriger.
Ouais.
C'est ça, la vie. C'est au fur et à mesure, on corrige, on change, on s'adapte. Il y a, voilà, les gens comprennent aussi qu'ils doivent faire un effort pour s'adapter, pour négocier, pour réarranger la chose, pour créer de la richesse, pour éviter les tensions sociales. C'est une mécanique permanente.
Bien.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des gouvernements et qui, normalement, pilotent la chose au plus près, quand ils sont compétents. C'est pas évident.
Ils vous plaisent, les gouvernement qu'on a aujourd'hui ?
Pas du tout.
D'accord. Et le roman de Boilhem Sansal, Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu, est paru en poche chez Folio. On passe à la chronique des libraires avant de rejoindre Philippe Solers dans la maison Gallimard. Et on commence par un coup de cœur en France, Sophie Todescato.
Oui Emmanuel, est-ce que vous savez ce que c'est que l'office sauvage ? L'office sauvage, ça mérite son nom, c'est de la vente forcée. C'est quand un libraire reçoit automatiquement une nouveauté dont il ne veut pas, par exemple. Un libraire qui serait spécialisé dans la cuisine, qui dans sa livraison du jour, trouverait une caisse de livre sur le golf, autant dire quelque chose dont il n'a pas besoin, qu'il ne vendra pas, dont il est sûr de ne pas avoir la vente. Et c'est une pratique vieille comme le monde qui reprend là, malgré les événements de ces derniers mois. Et évidemment, ce n'est pas supportable de nous balancer des livres dont on ne veut pas au moment où, justement, nos clients, ils attendent, eux, leurs commandes qui nous arrivent dans des délais qui sont vraiment très longs. C'est presque un message privé que j'envoie contre un éditeur qui se reconnaîtra. Merci de ne pas nous faire perdre notre temps, ni notre patience, ni notre trésorerie, parce que ces livres, on les paye. Et souvenez-vous que au mois de mars, à la fermeture, tout le monde a dit que ce genre de choses n'arriverait plus.
Ah oui, c'est vrai que vous les payez en plus. C'est qui l'éditeur ?
Oh, c'est vraiment le fond du panier. C'est Harlequin, Harper et Collins. Je me retrouve à réceptionner des romans à l'eau de rose, au secours.
Ah oui, d'accord. Bon, vous les avez cités, du coup. Très bien. Très bien. Donc, on alerte cette maison d'édition que je ne reciterai pas pour pas leur faire trop de mal. Mais attention, effectivement, respectez les libraires quand même. Surtout en ce moment, un minimum, hein, Sophie.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, allez, Yasmina Giaquinto en Suisse, un coup de cœur, je crois, dans le rayon des polars avec des livres qu'elle a choisis, elle.
Oui, tout à fait. Parce que je croise trop régulièrement des clients dans ma librairie, qui rechigne à flâner justement dans les rayons polars en se disant que c'est pas de la littérature, j'ai envie de vous présenter un premier roman aux éditions Zoé qui s'intitule « Ne pas laisser le temps à la nuit » de Sonia Molinari. En gros, c'est une jeune femme qui va tenter de sauver sa peau et partir à la recherche de son père, éminent scientifique, qui a été kidnappé il y a plus de 10 ans. Entre Bruxelles, le Cap Nord ou encore l'Asie, on va voyager la gorge nouée à la poursuite de son enquête. Vraiment à découvrir absolument.
Ne pas laisser le temps à la nuit, c'est aux éditions Zoé. Merci Yasmina. Déborah Damblon s'énerve à Bruxelles avec un coup de gueule elle aussi, comme sa collègue française.
Oui. Mais un vrai coup de gueule. Je sais que d'habitude ça vous fait rire quand je m'énerve Emmanuel, mais cette fois-ci, franchement, nous les Belges, vous le savez bien, on n'est pas très chauvins. Mais il y a un moment où vraiment c'est exagéré. C'est à croire qu'on a honte de nos talents. Vous voulez un exemple ?
Allez-y, oui.
Eh bien, au moment du déconfinement, la RTBF chaîne nationale a demandé à plusieurs personnalités de faire des listes de livres pour booster la reprise des librairies. Ok, c'était une bonne idée, mais il faut voir le résultat. De très très rares auteurs belges, tous publiés dans des maisons françaises, et pas le moindre éditeur belge. C'est vraiment triste.
C'est honteux même, ouais, effectivement.
Lamentable.
Lamentable. Bon, on n'a pas les noms, hein, pour le coup, là, on ne va pas les donner. On ne les a pas, de toute façon. Nous, on dit tout, hein, vous savez, mais là, on ne les a pas.
Ils se reconnaîtront.
Ah oui, ça, c'est sûr. On termine en douceur avec un coup de cœur, j'allais dire coup de gueule. Josiane Letourneau au Canada, coup de cœur, donc.
Oui, une lecture qui m'a conquise dès le premier texte, Nulli part, qui est un collectif de textes dirigé par Claire Legendre chez Hamac. J'y ai découvert avec plaisir des autrices que je n'avais pas encore lues et j'y ai retrouvé des femmes que j'adore, ben, Claire Legendre, comme je l'ai nommée, Fanny de Meul, Catherine Voyer-Léger, Monique Proulx, pour en nommer quelques-unes. C'est une œuvre importante qui aborde un sujet de plus en plus présent dans la sphère publique, la pression insidieuse que vivent les femmes qui, par choix ou non, n'ont pas d'enfants biologiques. Je précise car il y a quand même deux histoires d'adoption dans le livre. Honnêtement, je crois que particulièrement au Québec, où existe encore dans l'imaginaire collectif cette fameuse image de la femme procréatrice, publier ce livre était une nécessité. Alors, courez chercher ça, ça déborde de talent, de profondeur et d'intelligence, tout ce dont nous avons besoin en ce moment.
Et ça s'appelle Nulli part aux éditions Hamac. Merci Josiane, merci à tous les libraires, au revoir à toutes. Vous êtes quatre femmes aujourd'hui, c'est magnifique. Au revoir, à bientôt.
Au revoir Emmanuel.
Bonne semaine et bon week-end à vous. On termine cette émission avec un entretien hors studio, même si on est déjà à tous un peu hors studio. On va à la maison d'édition Gallimard avec Philippe Solers pour son roman Le Nouveau, paru en poche chez Folio.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Merci beaucoup de recevoir la librairie francophone à votre bureau ici, au siège de la maison d'édition Gallimard à Paris. Vous publiez Le Nouveau, un court roman composé d'une partie de votre histoire familiale, de quelques récits autour de grands auteurs qui vous ont marqué aussi, et puis de certaines réflexions sur notre époque. Et vous y allez en toute liberté, Philippe. Seule la liberté compte aujourd'hui pour vous ?
Oui, d'autant plus qu'elle est menacée à chaque instant. La liberté, ça consiste à savoir exactement se retrancher dans une parfaite solitude et dans une parfaite clandestinité. Personne n'attendait Montaigne. Et moi-même, personne ne m'attendait et je suis toujours là.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Je me demande pourquoi.
Est-ce qu'on vous attendait ? Oui, c'est ça la question.
Non.
Vous parlez un peu de religion dans ce livre, Philippe Solers. Vous imaginez un moment que l'on localise les tombes d'Adam et Ève. Et vous dites que ce serait un formidable coup marketing, ça.
Écoutez, vous imaginez mieux. Vous aurez deux concurrences. Un, vous allez sur Mars. Ou alors, là, on dépasse tout. La Mecque n'existe plus.
Hein, vous dites qu'il y aurait une concurrence avec la Mecque.
Oh, mais la concurrence serait tout à fait dépassé. Et en plus, les musulmans seraient obligés d'aller aussi sur la tombe d'Adam et Ève. Oui, voilà, c'est pour plaisanter. C'est pour plaisanter sur toutes les questions religieuses méritent, à mon avis, d'être relues à la Voltaire et d'être désormais ironisées, tellement ça prend une place de plus en plus lourde.
Alors, il y aurait des suicides mystiques, par exemple, et vous dites que les plus difficiles à convaincre seraient les Chinois. Je cite « ces arriérés, hélas, de plus en plus performants, ne reconnaissent pas Adam et Ève comme leurs ancêtres. Ces arriérés, Philippe Solers. »
Oui, mais ça, j'ironise.
J'imagine.
C'est ce que vous direz. Vous avez le choix entre Trump et les Chinois. Quel est votre choix ? Alors, la plupart des gens répondent « Ah, Trump, parce que sinon, les Chinois, c'est affreux, c'est totalitaire, c'est effrayant. » Remarquez que dans cette guerre, parce que désormais, vous avez une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Alors, moi, je trouve que les Chinois vont s'en tirer d'une façon très fluide, très autre, et surtout les Chinoises. Je préfère de beaucoup les Chinoises aux Américaines.
Pourquoi ?
Parce qu'elles sont... Ah, voilà, là, vous me demandez pourquoi ?
Bah oui.
Et renseignez-vous.
Mais je sais pas, vous avez peut-être des éléments que je n'ai pas, Philippe Solers.
Mais entre la névrose américaine et l'intelligence chinoise qui peut tout simuler sans rien dire, vous n'y a pas...
Fantasmer, Philippe.
Mais il n'y a pas photo. Mais il est interdit de fantasmer maintenant.
Ah, bien sûr que non.
Ah, mais alors.
D'accord, bon, c'est noté, en tout cas. Alors, du coup, avec votre humour habituel, Philippe Solers, votre provocation habituelle aussi, vous vous interrogez sur le nombre de personnes en train de faire l'amour ou de se masturber au moment où vous écrivez ces lignes. Et là, je traduis à mon tour de façon prude, parce que vous le dites avec d'autres mots.
Eh bien, c'est très difficile de vous répondre, parce que...
voyons, il y a... Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là, quand vous écrivez ça ? Pourquoi vous pensez aux gens qui sont en train de...
Parce que je m'étonne, voyez-vous, que ça n'apporte pas plus de connaissances aux gens qui pratiquent ce sport, nocturne ou diurne, il devrait avoir quelque chose à en penser. Et or, c'est très rare que vous trouviez, y compris dans les livres, chez les romanciers, les romancières, ou les autrices, ou les auteurs, les écrivains, enfin, peu importe. C'est très rare que vous trouviez quelque chose qui soit l'œuvre d'une connaissance, voyons.
Il faudrait le raconter, c'est ça que vous dites ?
Oui, mais non, mais pas seulement. En quoi ma connaissance a-t-elle augmenté à cause de ce que j'ai fait sexuellement ? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis un athée complet.
Oui. Vous avez un petit côté voyeur, non ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ?
Je suis un athée. Non, pas du tout, oui, si vous voulez. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir ce que ça produit comme connaissance. Sur la différence des sexes, qui ne fait, je ne vous apprends rien, que s'aggraver de façon vertigineuse.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire de tout ça ? Est-ce que vous êtes un moraliste qui ne se prend pas au sérieux, Philippe Solers ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, et d'autant plus que c'est très intéressant de ne pas se prendre au sérieux comme moraliste. Ça voudrait dire qu'on donnerait des indications pour faire plutôt le bien que le mal. Alors là, je préfère être manié une ironie pernicieuse à la Voltaire. Voltaire est un grand ami.
Bien, alors que vous mettez une cigarette dans un fume-cigarette, c'est très élégant.
Sans filtre.
Sans filtre. Alors, bon. Merci beaucoup Philippe Solers. Le nouveau est paru chez Gallimard, cette grande maison d'édition où vous nous avez accueillis, ici, Gallimard. Il y a quelque chose que vous aimez particulièrement dans ce bureau ?
Oui, c'est ce qui est juste derrière vous. C'est un rouleau chinois que j'ai ramené de Pékin il y a fort longtemps et qui se lit de haut en bas et de droite à gauche. Et c'est un poème merveilleux. Vous voyez à quel point c'est beau parce que vous avez la calligraphie qui est là comme un geste qui vous fait signe et qui n'est pas corrigeable. Par conséquent, un type qui fait ça ne corrige pas.
Il y a un gros bouquin là sur Voltaire. Voltaire en son temps.
Voilà.
Et puis plein de livres ici avec L'Infini, votre revue. Picasso, la collection L'Infini, évidemment, que tout le monde connaît.
Et puis telle qu'elle d'autrefois, que là-haut. Vous voyez la muse qui veille sur moi. Quelle photo ?
Qui est-ce ?
Ben, je ne sais pas.
C'est une femme noire allongée.
Voilà, magnifique. L'Afrique qui veille.
Merci beaucoup, Philippe Solers.
Merci à vous.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. N'oubliez pas notre opération hashtag un livre chez mon libraire. À la réalisation, le magicien Cyril Pascal avec Alexandre Chenet, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère pour France Inter, Jean-Marie Félix pour la RTS, René Mikils pour la RTBF, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin pour Radio-Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière librairie francophone de cette saison vraiment très particulière. Nous serons avec le prix Nobel Jean-Marie-Gustave Leclésio, Amélie Nothomb et les Cow-Boys Fringants, entre autres. Merci pour votre fidélité. Faites toujours très attention à vous, surtout. Bon week-end à tous.